Alors maintenant, envisageons plus précisément la roue hydraulique. Il en est de formes diverses. Les plus anciennes étaient en bois, constituées d'un moyeu de bois qui ressemble un peu à un moyeu de charrette, dans lequel étaient mortaisés des aluchons, des cuillères en occitan, donc, qui étaient creusées dans du bois. Et quelquefois aussi, le tout était frété par un cerceau de fer, parce qu'au démarrage, le couple de démarrage était extrêmement fort et pouvait casser, surtout lorsqu'elle commençait à être un peu fatiguée, casser facilement une de ces cuillères. Pour les mêmes raisons, les cuillers sont souvent sont solidarisés par un cercle extérieur qui forme un jambe. Alors avec ces rodées, ces rodées-là, le moyeu est en bois et l'arbre est en bois, c'est la candelle, et en général il est mortaisé avec une double mortaise, c'est-à-dire un enfourchement dans le moyeu, parce que là aussi il faut que la liaison soit très solide parce que le couple qui s'exerce est extrêmement fort. Alors, sur le même principe, on a produit des roudés, soit en fonderie, en fonte, soit en construction métallique, en acier soudé, donc qui sont très 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 fréquents. Et puis aussi, on a, les plus tardifs certainement, fabriqué des roudés, donc en construction métallique, avec, là, on a une double jante, les aluchons ne travaillent que sur l'extrémité, avec des raies qui rejoignent l'axe du roudé. Et les aluchons sont inclinés pour bien offrir une surface perpendiculaire au jet d'eau, et donc être plus efficace. Alors, suivant les roudés, ces moulins développent une puissance de l'ordre 4 à 7 chevaux et tournent à une vitesse de 80 à 120 tours minute. Alors maintenant, revenons plus précisément à la salle des machines, là où se trouve le roudé. Donc la salle des machines est en général donc la plus basse salle du moulin. C'est, on l'appelle la crotte parce que généralement elle est voûtée. Elle est voûtée parce que la charge des meules est extrêmement importante au-dessus et donc il faut un plancher qui puisse résister à cette charge. Et lorsqu'il s'agit d'un moulin de basse fosse, on appelle ça un moulin gournou. Alors l'eau du réservoir de la boutade s'engage dans l'épanchoir ou coursier d'amont qui est appelé en occitan martelier. Une vanne ici, nommée en français le lançoir ou palette en occitan, est commandée depuis la chambre des meules et libère l'eau libère l'eau qui va passer dans la trompe, qu'on appelle aussi passalis ou borgne quelquefois. Donc cette trompe qui souvent était un tronc d'arbre cerclé de fer. Et l'eau, après avoir fait tourner la roue, elle ressort par ce qu'on appelle la fugide en occitan, ou fuse des moulins, ou aussi la borgne. En fait, est la fuite de l'eau avant d'aller retrouver la rivière. Ouvrir la palette, ouvrir l'épanchoir, se dit esclaffir. Ça vient de l'esclaffidou, qui est aussi le nom que l'on donne à des vannes. Le moyeu du rodé, il repose au moyen d'un pivot en fer, qu'on appelle l'oufus, comme le fuseau, l'oufus, dans une crapaudine en général en bronze, qui elle-même est encastrée dans une pièce de bois, généralement de chêne, qu'on appelle le banc, qui est un appui à une extrémité et qui est relié par une tige à la chambre des meules avec un dispositif qui permet de monter ou descendre cette tige. Alors, soit c'est un levier qu'on appelle à la Messorgue, soit c'est, pour les plus récents, un pas de vis avec un écrou. Et donc, ça permettait de monter le banc, donc de faire monter de quelques millimètres, hein, ce n'était pas un déplacement énorme, l'arbre sur lequel repose la meule, et on le verra tout à l'heure, permettait de régler l'écartement entre les meules. Engourga se dit d'un moulin qui est submergé, soit par trop d'eau, moment d'inondation par exemple, soit même quelquefois ensablé, parce qu'à force de charrier des graviers, ben, le moulin peut s'ensabler. Les charpentiers, car c'est cette profession qui était sollicitée pour l'aménagement ou la restauration des moulins, employaient divers bois pour tailler les éléments de la chambre des machines. Bois qui varie évidemment suivant la situation géographique. L'aulne, très résistant dans l'eau, le chêne lieuse, le chêne vert, hein, le chêne blanc, le châtaignier aussi pour certains éléments, pas pour tout, parce que le châtaignier est gélif, il se fend facilement, il ne résisterait pas à un couple important, on ne peut pas faire le moyeu un châtaignier par exemple. Le sorbier ou l'alisier, qui sont des bois extrêmement durs et qui servaient pour les axes, et pour les dames d'engrenage, lorsque on avait des dames d'engrenage dans certains modèles. Dans le Viganais, Adrien Durand-Tulou mentionne l'usage du sorbier, donc pour les axes, et du hêtre pour les ogiers, ce qui me surprend, c'est un choix relativement curieux, eu égard au fait que le hêtre à l'humidité, dans l'eau, ou à l'humidité, séchant, mouillant, n'a pas une vie extrêmement longue, très très faible capacité à résister en milieu humide. Pour la Haute-Lozère, Yves Pourcher, quant à lui, signale l'emploi majoritaire du pain, tant pour les axes que pour les ogiers. Alors, examinons la chambre des meules. La meule dormante, la meule fixe, qui est dite dormante, donc, qu'on appelle aussi le jazz des moulis, hein, dormant, la jazz c'est la route d'or, hein, le jazz des moulis, est posé à bonne hauteur sur une maçonnerie, un tambour maçonné. Elle est enchâssée dans des quatre pièces de bois qui souvent ont la forme, naturellement la forme ronde, ils ont été choisis pour ça, qu'on appelle l'encastre, et elle est traversée donc par l'axe de fer que l'on appelle le paufer ou le pal, qui reprend le mouvement de l'axe en bois, la candelle qui était dans la partie la plus basse. Alors, quand on a modernisé, après, généralement, on a fait un axe qui est totalement en fer. Mais dans les modèles les plus anciens, c'est ça. Cet axe passe au travers de l'œillard du trou de la meule dormante, et pour qu'il ne vibre pas, pour qu'il soit coincé, il est maintenu par une boîte en bois dur que l'on graissait, qu'on appelle la bouisse ou boisseuse, ou il y a différents noms pour ça. Généralement, elle est en deux parties pour qu'on puisse la mettre en place. La nadine, qui est aussi une pièce métallique perpendiculaire à l'axe, elle est montée, elle est coincée dans l'axe. L'axe à cet endroit-là n'est pas circulaire, hein, c'est une pièce de fer à section rectangulaire dans laquelle s'emboîte la nadine qui elle-même est enchâssée dans la meule tournante. Souvent, elle a une forme en double queue d'arôme comme ça. Et la meule est posée sur la nadine. Ce qui fait que la nadine, lorsqu'elle tourne, elle entraîne la rotation de la meule. Mais aussi, lorsque l'axe monte, ben, la nadir va soulever la meule, ce que l'on a expliqué tout à l'heure à propos de la Messorgue, donc, qui permet de régler l'écartement entre les deux meules. La meule courante est enfermée dans un coffre qu'on appelle la resque, un coffre en bois, qui peut être circulaire, qui peut être à pan coupé, hexagonale, ou de différentes formes. Alors, j'ai oublié de montrer. Excusez-moi. La meule courante donc, est enfermée dans le coffre, et sur ce coffre, on a une trémie qui permet l'écoulement du grain. D'ailleurs, le meunier va mettre le grain dans la trémie, que l'on appelle donc en occitan la trémie, l'entremuage, on approvisionne et le grain coule dans une pièce qu'on appelle cassole. C'est un petit auger qui est suspendu à l'entremuage par des ficelles, et le grain coule dans cet auger, et cet auger et cette cassole est secouée par une came qui est montée sur l'arbre, qui tourne avec l'arbre et qui lui donne un mouvement de va-et-vient qui permet au grain de s'écouler. En plus, la pente de la cassole est réglable de façon à augmenter la quantité de grains qui rentrent dans le yard de la meule. Alors généralement, cette cassole se prolonge par un manche qui se termine avec une tête de cheval, mais aussi avec d'autres formes qui sont variables. Alors, le babillard, cette came est appelée babillard en français, et le barutel ou taravel en occitan. On peut l'appeler aussi, quelquefois en français, on l'appelle cliquer. Alors, ce toc émet cette bruit de crécelle, un tic-tac, c'est le tic-tac du moulin, qui permet au meunier de contrôler à l'oreille la vitesse de rotation. Par ailleurs, ce toc transmet donc, on l'a dit, à l'auger le mouvement vibratoire qui permet aux graines de s'écouler. Voilà, donc on voit ici la cassole et le babillard, le barutel, qui donc avec le disposé de came qui font vibrer la cassole. Et puis on a un dispositif, voilà, sur notre moulin, ça s'est pris au pont de Rastel, une cassole donc, qui est attaché avec une corde qui, elle, est fixe, et une autre dont on peut régler la longueur, parce qu'elle est double, il y a deux trous là, qui passent, elle est double, et en tournant la corde, donc, en la tressant, eh bien, on va la faire diminuer de longueur, ce qui va permettre de faire remonter l'auger. Alors, on peut voir quelques photos.
Je pourrais vous demander, j'ai juste une petite question parce qu'on va peut-être pas y revenir par rapport à cette pièce de bois. Pourquoi il y a une vis sur toute la longueur de la vis, enfin, et au-dessus du crénelage, il y a toujours un. Voilà, tout
voilà. Alors, ça c'est souvent c'est un décor. D'ailleurs, c'est pas toujours une vis. Moi je pense que je n'ai pas vu d'usage, on ne peut pas monter quelque chose là-dessus, on ne peut pas visser, pas de vis creux là-dessus, puisque l'extrémité de l'axe est guidée dans un trou. Donc moi personnellement je pense que c'est un décor. D'autant que quelquefois, c'est pas véritablement une. Là ça pourrait ressembler à une vis, mais. Le pas est extrêmement large, arrondi, comme un peu une canne entourée d'un serpent. Vous savez, ces cannes qui représentent un bois qui est entouré d'un serpent. Hein. Ben, c'est un peu pareil. Donc, moi, je pense que c'est essentiellement un décor. Alors. À l'avant de l'encastre, non, pardon, c'est pas sur ce tableau-là. À À lavande, voilà, bon, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, je la montre, une arêscle qui est à pain coupé, hein, avec sa trémie. Alors là, on voit que l'arbre métallique, l'axe métallique, a une poulie, parce que ça donnait le mouvement à des courroies qui permettaient de faire tourner le blutoir. Là, en revanche, on a une arêscle circulaire, je crois que celle de Rieussé m'a semblé tout à l'heure que elle était aussi circulaire. Et puis, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Alors, on voit ici cette vis à proximité de la meule qui permettait, on voit la tige qui descend à la salle des machines et qui permettait de régler le banc, donc l'écartement entre les meules. Et puis, je vais revenir sur cette image. En quelque part, donc, devant la rescle, on a un coffre, on appelle à la pastière du moulin, qui est l'endroit où coule la farine par un élément bien précis. En général, c'est une tôle qui était placée à cet endroit-là et qu'on appelle le farinier. Donc la farine, la mouture coulée par ce farinier dans la pastille. Alors, la mouture que l'on appelle en occitan la molte ou la maute, donc qui tombe dans la pastière du moulin. La molte peut aussi, suivant les actes, je dis ça parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y a des gens qui regardent les archives anciennes, quelquefois la molte désigne la quantité de farine qui correspondait au salaire du meunier. Et meunier que l'on désigne en occitan sous le vocable de mouinier et non pas moulinier. Le moulinier était celui qui travaille dans les moulinages de la soie. Alors en Cévennes, on a les deux, puisqu'il y avait les deux. On a le mouinier et le moulinier. Au XVIIIe siècle, on les différenciait très, très, très nettement. Alors la farine était mise en sac avec des pelles, souvent des pelles en bois, et taillées dans une seule pièce en général. Et pour bien serrer la farine dans le sac, on utilisait un garrot pour serrer le sac, que l'on appelait l'ensacadouille. Et on a un proverbe cévenol qui dit « Bla ensaca et farine mouta » qui signifie « blé mis en sac et farine moulue » est souvent employé pour dire « affaire conçue, chose conclue ». Et l'ample, en occitan, l'ampleur est la quantité de farine qui reste toujours entre les meules. On laisse toujours une certaine quantité de farine de façon à ce que dès que l'on va engruner, c'est-à-dire dès que l'on va commencer à moudre, ben, de la farine commence à couler. Et puis, le client va récupérer une farine qui ne lui appartient pas, mais il va laisser la même quantité entre les deux meules après, donc personne n'est volé. Mais c'est sécurisant pour les meules. Alors, l'action qui consiste à verser les premiers grains dans la trémie d'un moulin au repos se disait engranard ou engrunard. Les anciennes coutumes voulaient que la première personne arrivée au moulin, quel que fût son rang ou son état, soit la première à moudre. Et le proverbe dit donc « Vous premier casal moulin en grane » s'emploie pour signifier qu'en affaire, la diligence facilite le succès. En revanche, on disait aussi « nous moulissons un grain quand il manquait d'eau pour le faire tourner et que les grains s'accumulaient ». Expression qui était aussi employée à table quand on voulait signifier qu'on réclamait à boire, c'est-à-dire qu'il fallait un peu de liquide pour faire passer, on disait « nous moulissons un grain ». Voilà, ça, le vocabulaire qui est issu de la meunerie. Alors maintenant, nous allons aborder la meule, la molle ou la paissière aussi. On trouve dans les textes anciens le mot de paissière pour désigner une meule. La meule, la molle, dans les vieux textes, vous avez pu rencontrer ça, est souvent traduit par mule. Et ce n'est pas une coquille, mais une faute de traduction que Boissier de Sauvage dénonce dans son dictionnaire, expliquant qu'une mule est une pantoufle ou une bête de somme. Mais c'est les gens à cette époque-là, 17-18e, étaient habitués à l'occitan pour le quotidien et ne connaissaient pas parfaitement le vocabulaire français. Et donc, meule, c'était une erreur de l'appeler mule. Et l'abbé rectifie pour que les gens évitent ces erreurs. Alors, les meules n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Les plus anciennes sont de petite taille, de 90 à 130 cm de diamètre. Tandis que les plus récentes peuvent atteindre 1,80 m à 2 m de diamètre. Voilà, Moulin du Martinet à Chambord-Olivaux, des meules qui mesurent 1,80 m de diamètre. Alors, elles sont monolithiques ou composées d'éléments, de secteurs circulaires assemblés par un lien hydraulique et cerclé par une ou deux frettes, une ou deux bandes donc en fer. Boissier de Sauvage précise qu'au XVIIIe siècle, il y avait deux qualités principales de meules de moulin, les cantines, qui sont des agrégats de gravier ou menus cailloutages, la plupart calcaires, et les meules françaises qu'on tire de Bourgogne. Celles-ci sont une pierre homogène, naturellement raboteuse et qui imite en quelque endroit l'agate. En fait, c'est une forme de silex. Hein. Elle en a partout la dureté. Ces dernières servent ordinairement au-delà de 100 ans en travaillant toute l'année. On ne les emploie que pour les moulins blancs ou ceux qui moudent, je cite Boissier de Sauvage, que le beau blé. Les autres servent pour moudre pour les moulins bruns. Et donc, on distinguait au XVIIIe siècle les moulins blancs réservés au froment, qui donnera le pain blanc, et les moulins bruns affectés au seigle, qui donnent ce que l'on appelait le pain noir. Alors, il ne s'agit pas de faire ici l'inventaire de tous les lieux d'extraction des meules cévenoles, et bon, vous pourrez en signaler quelques-uns, et au passage, je montre, parce que c'est assez intéressant, la grande paillère dans la région d'Anduze, où il reste encore des meules taillées et qui n'ont pas été totalement débitées. Et donc ça nous montre comment on taillait une meule. Vous voyez là, on l'a colorée pour qu'on le voit parce qu'il y avait beaucoup de feuilles de châtaignier. La meule était taillée tout en étant toujours solidaire de la roche du rocher mère. On faisait même le yard, le trou était taillé aussi. Et puis, une fois que la meule était complètement terminée, au ciseau, elle faisait de légères petites mortaises, de petites entailles sous la meule. On y glissait des coins de bois. On mouillait ces coins de bois et le bois, en gonflant, détachait la meule régulièrement sur l'ensemble de sa surface. Alors, les cantines qu'appelle Olivier Boissier de Sauvage, ces cantines, en fait, sont des meules en provenance de Saint-Quentin-la-Poterie, qui étaient d'une qualité relativement bonne et que l'on retrouve un peu partout en Cévennes. Naturellement, partout aussi, on trouve des lieux d'extraction des meules en grès, en granit, en calcaire, coquillé, fait de différents matériaux. Par exemple, on a un préfet en 1674 pour un moulin, pour le moulin de Cambonera à Saint-Jean-du-Gard, qui prévoit la fourniture d'une meule de Saint-Quentin et unie. C'est une meule de Saint-Quentin l'Impoterie. Mais l'importation des meules blanches, attestée par Boissier de Sauvage, est très ancienne et a perduré jusqu'à la disparition des moulins. Même les derniers grands moulins ne fonctionnaient qu'avec ça. La majorité des meules importées encore visibles dans les moulins cévenols proviennent quasiment toutes de la Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne, qui en produisait annuellement, qui en a eu produit jusqu'à 5000 meules monolithiques et 12 000 meules composées. Alors, quelle que soit l'origine, l'acheminement d'une meule à un moulin cévenol perdu au fin fond d'un petit ruisseau et desservi seulement par un chemin muletier, était une opération longue, difficile et mobilisant de nombreux bras. Les meules étaient roulées, on a des descriptions hein, de ce genre de travail. Les meules étaient roulées sur champ. On plaçait un long bois dans le yard et plusieurs hommes de chaque côté pouvaient la rouler. On pouvait aussi atteler une ou plusieurs mules avec un système de palonnier. Mais l'intérêt de ce long bois qui servait d'axe pour pousser la meule était aussi très, très important, parce qu'en cas d'accident, qu'on ne puisse pas bien tenir la meule, parce qu'elles sont très lourdes, elles font plusieurs tonnes, certaines, ces grandes meules, et que la meule se couche, d'une part, elle se coinçait sur le bois en travers, donc elle ne blessait pas les gens qui étaient à côté, et surtout, pour la redresser, évidemment, c'était beaucoup plus facile que si elle était complètement à plat sur le sol. Alors, un bon entretien des meules était indispensable. Il fallait les piquer de 4 à 10 fois par an, suivant la quantité de travail fourni. Tous les 3 ou 4 ans, il convenait de les rhabiller, d'y retracer les rainures excentrées qui facilitent l'écoulement et l'aération de la farine. L'aération de la farine, c'est très important pour que ça ne chauffe pas et que la farine ne se détériore pas en chauffant. Cette opération se nomme le rhabillage et emploie des pics, des outils avec des lames relativement insérées qui se fixent sur des maillets de bois. Enfin, on en a amené quelques-uns, vous verrez dans l'exposition, on en a quelques-uns. Et pour faire cette opération qui est absolument indispensable, redonner une surface travaillante à la meule, il fallait les dresser dans le moulin, et pour cela on avait différentes techniques. Il y en a une, celle qui était employée au moulin de Rieussé, on a vu les éléments qui subsistent, consistait à enfoncer à la masse un coin de bois entre les deux meules afin de pouvoir y passer une corde qu'on enroulait sur un tour, hein, sur un axe. On faisait tourner avec soit un volant, soit avec des barres de bois, et ainsi on arrivait à redresser la meule. Au passage, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, voilà la meule de la Ferté-sous-Jouarre avec ses rainures, alors qu'ils sont pas, qui passent pas par là, c'est très compliqué, hein, le rainurage d'une meule. Et donc ces meules qui sont cerclées de fer parce que, je l'ai dit, elles étaient constituées souvent de plusieurs morceaux. L'autre technique, plus moderne et sur les moulins un peu plus conséquent, surtout lorsqu'il y avait deux meules par exemple, hein, deux jeux de meules, c'est une grue, donc une potence qui avait un axe de fer fileté avec deux arcs. Avec un axe ici. Donc, on plaçait comme ceci à la meule avec deux chevilles de fer qui rentraient dans la meule, et puis on vissait l'axe. La meule montait horizontalement, et quand elle était suffisamment montée, on pouvait la faire pivoter pour qu'elle soit verticale afin de pouvoir la piquer normalement. Enfin, dernier élément dans les moulins bladiers, c'est ce que l'on appelle le moulidase ou la meule à monder. Il s'agit d'une meule tronconique. Alors souvent, elle est à côté de la meule normale. Voilà une cuve avec une meule tronconique à l'intérieur. Voilà, on voit mieux. Elle est dans une cuve de bois ou de pierre ou dans les plus récentes métalliques. Ce moulin est quelquefois appelé rulle ou rulle parce qu'on a une meule conique qui ressemble pas mal au rouleau de pierre qui servait à dépiquer les graines sur l'air et qu'on appelle la rulle à douille. Donc ça y ressemble aussi. Mais le nom le plus commun était le moulidase. Parce que c'est comme la meule roule et ne frotte pas, n'écrase pas le grain, mais lève simplement l'enveloppe du grain, l'énergie pour faire tourner ce moulin est beaucoup plus faible que l'énergie, je dis tout à l'heure, de 4 à 7 chevaux. Un âne suffit à le faire tourner, d'où son nom de mouli d'Az. La fonction de ce moulin est de monder les grains, le froment, l'épeautre, l'orge, c'est-à-dire de les décortiquer, de les dépouiller de leur enveloppe sans les réduire en farine. Et on obtient l'orge perlé ou le blé perlé, c'est-à-dire en français le gruau ou gruda en occitan. Le nom du moulin d'ailleurs pouvait être, on l'a vu tout à l'heure dans les noms que j'ai donnés, le mouli grudadou ou mouli grudaire, donc pour faire le gruau. Le gruau était préparé en soupe. Aujourd'hui, on consomme pratiquement plus de gruau, y compris dans les Cévennes, alors que c'était autrefois, encore au XVIIIe siècle, un aliment totalement récurrent des Cévennes traditionnelles. Il était même à l'origine d'une recette extrêmement ancienne qui était réservée aux plats festifs, les mariages, les baptêmes, les choses comme ça, et qui remontait à un temps immémorial, dit Olivier de Serres au XVIIIe siècle. Ce plat est appelé la cassole, du nom de la marmite, de la terrine en cuir qui servait à le cuire, et dans laquelle on le préparait avec. On le faisait au four, en y associant du riz au gruau, et avec du petit salé, ou mieux, un saucisson de couane, donc qui le rendait un peu gras. Je dois dire que peut-être j'avais pas la bonne recette, j'ai essayé, franchement j'ai pas trouvé que ce soit quelque chose de bien terrible. Alors on voit qu'avec la meule à gruau, il y a derrière la meule, perpendiculaire à son axe, une espèce de râteau de bois qui tourne et qui aère le grain dans la meule lorsqu'on est en train de le monder. Et ça a donné l'idée au meunier, en enlevant la meule et en ne gardant que le râteau, de pouvoir décortiquer les châtaignes et d'en faire un pisaille, une machine à décortiquer les châtaignes. Et beaucoup de moulins qui avaient un moulin grudaire décortiquaient aussi les châtaignes à façon. Et intéressant au moulin de Rieussé, certainement d'ailleurs dans sa dernière vie, dans le dernier moment de sa vie, on avait aménagé dans la pièce supérieure un pisaille qui lui n'était pas un moulin grudaire, qui avait été fait pour être un pisaille. Et qui donc décortiquait, pisait les châtaignes. Alors ça me permet d'évoquer une remarque, c'est qu'aujourd'hui, où on a relancé la production de châtaignes, et aussi de produits transformés à partir de la châtaigne, on fait de la farine de châtaigne. Et on a tendance à dire aujourd'hui, ceux qui font de la farine de châtaigne, que c'est quelque chose de très traditionnel, que ça s'inscrit dans une tradition très très ancienne en Cévennes. En fait, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, je ne partage pas du tout ce point de vue. En effet, ça fait plus de 50 ans que je travaille sur ces questions-là, sur le châtaignier, que j'épluche des actes de toutes les époques. En tout et pour tout, j'ai trouvé 4 mentions de farine de châtaigne depuis le XVIe siècle, ce qui est quand même relativement peu. Alors, je les signale parce qu'il y en a 2 qui sont dans le canton d'ici. Il y en a une qui est au XVIe siècle, c'est Plater, venant herboriser, qui donc décrit l'Espérou, parle de l'Espérou, et il évoque les gens qui... en période de crise de céréales, consomme un pain dans lequel on met une partie de farine de châtaigne. Alors on ne peut pas faire du pain uniquement avec la farine de châtaigne. La farine de châtaigne ne contient pas du gluten, donc elle ne permet pas à la pâte de lever. Donc ce qu'on peut faire, tout au plus, ce qu'on faisait en Corse en particulier, c'est un mélange de céréales et de châtaigne. L'autre mention que j'ai trouvée est à Valrhog en 1766. Et là, c'est un témoignage vraisemblablement de, non pas d'Angliviel de la Baumelle, mais de son frère. Ce manuscrit, on ne sait pas quel est l'auteur, mais comme il sort des archives de la Baumelle, je pense que c'est ça. Les habitants ne vivent presque que de châtaigne et en font même un pain en mêlant la farine de châtaigne avec celle de seigle, et ils précisent que cette technique, ils mangent essentiellement les châtaignes sous forme de soupe, le bhajana, mais que lorsqu'il manque des céréales pour faire le pain, ben, il peut arriver qu'on fasse de... on panifie un peu de farine de châtaigne. Les deux autres témoignages que j'ai ne parlent pas de panifier de la farine de châtaigne, mais parlent de moudre des châtaignes au moulin, et sont un du XVIIe siècle et un autre du XVIIIe siècle dans la région de Saint-Jean-du-Gard. Alors, on a des témoignages oraux qui expliquent qu'on a fait de la mouture de châtaigne effectivement à la fin du XIXe siècle, mais pour les animaux. C'est l'époque où les agronomes préconisent d'utiliser des farines pour nourrir les animaux, y compris des farines de céréales d'ailleurs, parce qu'ils les digèrent mieux, enfin, il y a pas d'avantages à cela, et on a pu faire un peu de farine de châtaigne pour nourrir les animaux, et notamment le cochon. Mais alors, pourquoi, voilà, aujourd'hui, imagine-t-on qu'on a beaucoup fait de farine de châtaigne? Ben, tout simplement, et je l'ai expérimenté d'ailleurs tout à l'heure, je ne sais pas si la dame est dans la salle, qui m'a dit, mais mon père me disait qu'on a amené les châtaignes au moulin. Et oui, on a amené les châtaignes au moulin. Et pour nous, aujourd'hui, quand on amène les châtaignes au moulin, évidemment, c'était pour les moudre. Eh bien non, c'est pas pour les moudre, c'était pour les décortiquer dans le pisaille, comme on a vu à Rieussé, ou comme je vous ai expliqué, dans la cuve du moulin Grudaille. Donc, le paysan a amené ses châtaignes, c'est beaucoup, c'est très pénible, hein. Décortiquer les châtaignes à la main, c'est le même principe, on a un axe avec deux manivelles, il faut être deux, un de chaque côté, et c'est extrêmement pénible. Et comme les récoltes étaient très importantes, ben, ça prenait beaucoup de temps, c'est très pénible. Donc, ben, on l'a fait au moulin, là c'est l'énergie hydraulique qui est beaucoup moins pénible. Et donc en fait, si on entend des témoignages qui évoquent l'apport de châtaignes au moulin, c'était pas spécialement pour les moudre, mais certainement davantage pour les décortiquer. Voilà. J'ai été un peu long, excusez-moi. Merci. Et,